Résonance, une émission à l'écoute de l'inouï, une émission pour amplifier la voix, le récit, les témoignages de ceux et celles qui s'aventurent sur les chemins de la création. Nous vous proposons de réentendre, de redécouvrir une émission diffusée le 17 mars 2020. Aller à la rencontre de jeunes compositeurs et compositrices de la musique contemporaine. Qui sont-ils? Qui sont-elles? Comment se sont-ils ou elles lancés dans cette aventure de l'écriture musicale? Qu'est-ce qui sous-tend leur démarche de création? Qu'est-ce que signifie pour eux composer de la musique? Comment perçoivent-ils le métier de compositeur ou de compositrice? Voici donc une série d'entretiens avec les étudiants en composition de la classe d'électroacoustique du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon, dont le professeur est Stéphane Borel. Alors aujourd'hui, nous rencontrons Rocío Cano Valiño, Charlie Medina et Juan Manuel Sanchez qui nous confient ce qui les ont conduits à s'engager sur les chemins de la création musicale. Très heureux de vous accueillir dans ce moment, Rocío.
Merci beaucoup à vous. Oui.
Rocío Cano Valiño.
Valiño, oui.
Valiño,
oui. Rocío Cano Valiño, oui.
Merci. Ça fait combien d'années que vous êtes en France?
Et je suis arrivée en septembre 2017.
2017.
Oui.
Voilà. Et vous étiez déjà orientée dans la musique déjà?
Oui, oui. J'ai déjà fait des pièces et tout. Et j'étais très intéressée. Et c'est pour ça que je suis venue en France. Pour étudier la musique, parce que je trouve qu'en France, il y a beaucoup de possibilités, des choses à faire. Et la France, j'aime beaucoup l'esthétique musicale et tout. Alors, c'est pour ça.
Et comment dans votre pays, comment c'est venu de vous aventurer, j'irai dans l'écriture et la composition?
Et en fait, j'ai commencé, à aller au concert de musique contemporaine.
Oui.
Moi,
vous aviez déjà des expériences?
Oui, de la musique. Oui, et j'ai commencé à aller au concert de musique musique contemporaine. Et je me suis intéressée avec la musique électroacoustique et aussi la musique instrumentale et mixte. Et je voulais m'aventurer dans la création. Et moi, j'adore la création dans tous les aspects, parce que avant j'ai fait mes études d'architecture intérieure aussi. Ah. Alors la création pour moi,
oui,
c'est très important.
Il y avait déjà un côté pluridisciplinaire dans votre vision aussi,
oui,
de la création, et
oui,
du,
oui,
coup ça rentrait aussi en ligne de compte pour,
oui,
vous.
Oui, c'est ça.
Très bien. Et pour vous, alors, puisque déjà ces choses-là se posaient, composer de la musique, ça signifie quoi pour vous?
Pour moi, c'est une expérience que j'aime beaucoup et c'est une possibilité de créer des choses ou des choses que j'ai envie de faire et tout. Ouais. Et c'est très important pour moi et ça me donne beaucoup de et ça me donne heureuse et tout. Oui.
C'est ça.
Alors, oui.
Ça correspond à des désirs très profonds aussi,
oui,
pour vous de pouvoir matérialiser ce que vous avez envie de dire,
oui,
à travers le son.
Oui.
Là, en l'occurrence, aussi l'électroacoustique. Alors, ce qui vous intéressait peut-être sur le côté électroacoustique, c'est le travail de la matière. C'est qu'est-ce qui vous a,
oui,
conduit à
oui, surtout c'est très très grand, mais les oui, gestes. Moi, j'aime beaucoup
très
les
bien,
gestes et les graines sonores et tout.
Ça,
et
comment
les
le
travail,
geste est création du son et,
oui,
comment vous pouvez travailler,
oui,
à partir de cette notion.
Oui, oui.
Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est une ligne de force pour vous dans votre processus d'écriture?
Oui, 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 bien
cette
sûr.
Cette relation au geste,
oui,
au son.
Oui, aussi par rapport à l'électroacoustique.
Oui.
Moi, une chose que j'adore faire, c'est d'enregistrer des sons qui peut-être ont déjà des connotations en soi-même,
oui,
et les sortir de ces...
De leur contexte.
De leur contexte, oui, pour les réutiliser dans les pièces. Oui.
Et là, ça veut dire que dans ce type de son, c'est quoi? C'est des sons urbains, c'est des sons naturels, c'est des sons...
Ou des machines, ou des bouteilles, des plastiques, beaucoup de choses que peut-être on dit, ah bon, c'est ça, mais finalement, quand on l'entend dans la pièce, j'essaie de que... Des fois, on ne pense pas à ça, sinon qu'on pense plus musicalement.
Et est-ce que, du coup, aussi bien par rapport à quand vous étiez dans votre pays et quand vous êtes ici, par rapport à votre démarche d'écriture, est-ce que justement il y a des compositeurs qui pour vous sont, sans parler forcément de référence, mais nourrissent peut-être un peu ce que vous faites aujourd'hui ?
Oui, oui, bien sûr. Oui,
et par exemple
J'adore la musique de Parmesani, qui bon, oui. De François Bell, de ouais. Bon, Grisset, aussi Vachon, qui est un compositeur tout argentin qui est, qui a vécu toute sa vie en France. Et aussi, j'adore des compositeurs qui sont, par exemple, Bedrosian ou Ung Suk Chin, qui est un compositrice aussi, ou de l'électroacoustique aussi. Il y a beaucoup de personnes comme. Et Shanti Harrison, Coco, Lassou, moi j'adore, oui, des références.
Tout à l'heure vous parliez aussi...
Mathieu Ferreira aussi, qui est...
Très bien. Oui. Est-ce que par exemple on parlait que là de vous parliez des sons, d'objets naturels, est-ce que rentre aussi dans votre manière, dans votre processus d'écriture et de démarche de création, cette relation à certaines musiques qui sont plus antérieures? La nourriture de musique de différents styles ou d'autres musiques, est-ce qu'elles viennent nourrir aussi votre démarche ?
Oui, je pense que oui. Oui.
Forcément.
Oui, oui, oui.
Et ça vous semble important, ce côté-là, cet aller-retour, enfin, sans dire que ça prime sur ce que vous allez faire, mais d'avoir cette liaison avec aussi ce passé musical très divers, puisqu'aujourd'hui, on a tellement la possibilité de tout écouter.
Oui.
On peut écouter de la musique grégorienne, on peut utiliser, grâce au disque, à tous les moyens technologiques. Donc, on a beaucoup de cette chose-là. Est-ce que ça, c'est des éléments qui concourent à alimenter votre démarche ?
Oui, je pense que quand on est compositeur, on peut pas effacer, ou quand on est musicien, on ne peut pas effacer l'histoire. Alors, on a toujours l'histoire avec nous. Et il y a des personnes qui préfère une musique ou l'autre, c'est toujours, on est nourri toujours avec beaucoup de musiques différentes.
Je vois aussi que vous avez déjà de nombreux prix dans votre parcours, qu'il y a déjà plusieurs années que vous travaillez ici et que, je dirais, ça a l'air de démarrer bien pour vous. Et vous avez déjà présenté des œuvres, je vois, au GRM. Vous avez eu aussi un prix Exhibitronique, pardon, en 2018. Le prix de la Fondation Deletos aussi en Argentine. Donc, vous avez déjà une expérience aussi et un catalogue qui s'agrandit, visiblement.
Oui. Oui, moi, je voulais faire de la musique ma vie et ouais. Bon, j'essaie de faire connaître mes pièces.
Bien sûr.
Oui.
Et comment vous sentez ça aujourd'hui ? Parce que c'est pas en tant que femme, en tant que compositrice, s'aventurer dans cette posture-là, ça vous, comment vous la sentez ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que vous sentez que le milieu favorise aussi ce genre de choses ? Ou au contraire, rend les choses plus difficiles ?
Pour moi, c'est surtout... Pour moi, ce qui c'est important, c'est la musique. Moi, je ne fais pas différence si la musique vient d'un homme ou une femme. Et pour moi, le plus important, c'est la musique en soi-même. Et je trouve que c'est important qu'on a tous une place et... je sais pas comment dire.
Oui, non, très bien.
Mais c'est important pour tous qu'on peut participer, tout le monde est égalité de...
je sais pas comment dire. Alors peut-être quelques mots sur... ce soir sera diffusée votre pièce qui s'appelle Astérion. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu quelques mots comme ça sur qu'est-ce qui vous a conduit ou qui vous a permis d'imaginer cette pièce ?
Oui. Moi, et par rapport à l'axe conceptuel de la pièce, moi, j'ai Astérion, c'est le mythe de Minotaure.
C'est le Minotaure, le mythe de, justement. Hein,
des Crêtes, oui. Désolée, parce que absolument. J'avais oublié en français les noms. de Astérion et aussi, il y a un conte de Borges qui parle de Minotaure
Et c'est un peu ça qui vous a... Vous avez choisi cette thématique pour pouvoir essayer
oui,
de...
Oui, alors je sais que l'auditeur c'est ça comme dans ces labyrinthes et ou dans un milieu...
Donc vous avez essayé de chercher dans la manière de construire votre pièce que du coup l'auditeur aussi se trouve aussi dans l'idée du labyrinthe lui aussi également.
Oui.
Et comment vous avez voulu matérialiser, je dirais, au niveau sonore ou au niveau de l'écriture, comment vous avez matérialisé, je dirais, cette idée du labyrinthe ?
Et moi, j'ai... par exemple, au début, je présente des sons.
Oui.
Et que c'est comme la découverte de... Parce que l'éliminateur, il ne sait pas des fois qu'il est le labyrinthe. Alors, c'est un peu comme les personnages, c'est la découverte.
C'est la découverte aussi qu'il oui, se trouve qu'il dans est... un... Il découvre le labyrinthe lui aussi.
Mais oui, des fois, il ne sait pas qu'il est un minoteur.
C'est
et ça. Alors, c'est... pas contradiction, c'est...
Oui, c'est il y a un peu de deux aspects contradictoires
oui,
qui
oui,
s'expriment tout au long de la pièce.
Oui,
c'est ce que vous avez cherché à essayer de faire.
Et oui, aussi, présenter des différents sons et tout, et après, que, bon, ces sons, c'est, à la fin, on entend plus, et ce sont plus mélangés et tout. Et par rapport à l'histoire aussi, parce qu'il y a TC, qui c'est la personne qui finalement tu es le minotaure.
C'est ça.
Et moi, j'essaie de décrire aussi l'histoire parce qu'il y a des personnes qui entrent au labyrinthe chaque neuf ans et tout. Et il est tout et les minotaures, les toujours.
Toujours, absolument.
Et jusqu'au finalement, qui TC arrive. Alors pour moi, c'est la fin de la pièce, qu'il y a une sorte d'accumulation et tout. Et j'essaie de décrire ce combat. Ce combat, oui, merci. Mm-hmm. Et jusqu'à la fin, qui finalement,
c'est le minotaure qui est tué.
Oui, qui est tué, et on entend un souffle et tout, c'est comme le dernier souffle de Astérion. Oui.
Très bien. Vous aimez travailler à partir des mythes, puisque là, on est en plein dans un mythe,
oui.
Justement.
Oui, avec des histoires aussi, ou des contes.
Voilà,
oui.
Ça, c'est un support aussi pour vous.
Important, ou la peinture,
dans la peinture, ça, oui. Vous parliez d'architecture aussi tout
oui,
à l'heure.
Aussi, oui, aussi.
C'est
oui,
des
oui.
éléments qui concourent aussi à... est-ce que l'idée se construit au fur et à mesure du processus, par exemple, parce que là, il y avait déjà l'idée de départ, mais est-ce qu'à un certain moment donné, vous partez dans la découverte du son et l'idée se fait au fur et à mesure et après, elle s'affirme et peut-être que ça fait corps ou sens avec un mythe ou une histoire?
Non, des fois, il y a des pièces que j'ai déjà les concepts
oui,
et je les fais. Et des fois, c'est plutôt avec les matériaux sonores que je voudrais utiliser. Ça n'arrive pas toujours, mais des fois, ça arrive avec seulement les matériaux que j'ai. Que j'ai une pièce qui c'est avec des sons de machines, des perceuses et tout.
Uh-huh.
Et ça, c'était plutôt, le départ, c'était plutôt les matériaux sonores.
C'est ça.
Mais oui, c'est bien toujours pour moi d'avoir un concept ou des choses. Et par exemple, l'architecture, moi, ce que j'adore des sons, c'est l'aspect physique des fois, ou faire sortir les haut-parleurs et tout, qu'on entend bien les sons, et aussi l'espace, bien sûr, avec les cosmoniums et tout.
Eh bien, merci beaucoup
merci à vous,
nous avoir
oui.
accordé ce moment.
Merci.
Et puis, bon concert ce soir. Alors.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Résonance sur Radio B, émission spéciale avec les jeunes compositrices et compositeurs de la classe d'électroacoustique du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon. Et là, nous venons d'entendre une œuvre intitulée Astérion, composée par Rocio Cano Ballino en 2018, une pièce acousmatique stéréo inspirée par la demeure d'Astérion de Borges. Bienvenue Charlie Medina.
Merci.
Merci en tout cas de nous accorder ce petit moment. Voilà, ça fait 2 ans je crois, ou trois ans.
Trois ans
maintenant que vous êtes dans la classe de Stéphane Borel. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné vous vous retrouviez dans cette classe, et notamment pour un peu plus aborder, je dirais, la musique électroacoustique, puisque c'est quand même le fondamental aussi de cette classe?
Comment je me suis retrouvé? Eh ben, c'était à la fin de mes études à la fac de musicologie, ouais. Où en fait j'ai eu une formation très classique. Enfin, ouais. Voilà, on parlait d'écriture. Voilà, j'ai fait de l'écriture classique, baroque, etc. Uh-huh. Et donc j'ai eu envie d'aller voir complètement ailleurs en fait, parce que je me suis rendu compte que la composition s'arrêtait pas aux notes de musique en fait. Et donc de mon plein gré, j'ai commencé à écouter des pièces d'électroacoustique, d'acousmatique.
Par exemple, il y a eu comme ça des déclics qui se sont faits, notamment avec certains compositeurs, par exemple
avec Parmigiani.
Oui, j'imagine.
Voilà, enfin toutes les pièces de Pierre Henry, de Pierre Schaeffer, même si c'est pas les plus inspirantes, mais c'est quand même quand on se rend compte que ces mecs-là ont fait ce qu'ils ont fait à leur époque, on se dit que nous, à notre époque, on peut faire finalement encore plus. Enfin, on peut développer ça fois 1000. Et du coup,
ce qui vous a intéressé aussi dans ces déclics, alors déclic par l'écoute, j'imagine, mais aussi déclic aussi par la démarche, c'est-à-dire que c'est aussi, si on se replonge à ces années-là, les magnétophones, il n'y a pas longtemps que ça existe. Enfin, aujourd'hui, vous êtes habitué à toute une technologie, mais n'empêche que peut-être, même s'il y a cette technologie, du coup, j'interprète un peu ce que vous dites, mais vous me direz si c'est un peu ça qui dicte aussi un peu les choses pour vous. C'est que du coup, quand même, on peut chercher, on peut continuer à inventer, même si on a tout ça à sa disposition, comme eux ont été novateurs, parce qu'ils découvraient des choses, et c'est leur curiosité, c'est leur envie de peut-être aller voir ailleurs autrement, de revisiter, de s'aventurer, d'explorer. Ouais. C'est des sentiments un peu comme ça qui...
Ouais, sauf que... La différence avec à leur époque, je pense que c'est la contrainte, puisqu'aujourd'hui on a tout ce qui est numérique, on a tout ce qui est, on a tout numérisé, donc on est dans un champ de possibilités et de médium qui est hyper vaste. Et je pense qu'à leur époque, c'était peut-être plus... la contrainte forte du coup du magnétophone et des bandes leur a permis de travailler comme ça. Et nous, aujourd'hui, quand on veut rentrer dans la musique électroacoustique, dans le sound design, dans tout ce qui est spatialisation, enfin voilà, on a des milliers d'outils à notre disposition et c'est ce qui rend la recherche et la curiosité des fois un peu... pas compliqué, mais on sait jamais vraiment où se tourner.
Oui, parce qu'il faut faire des choix quelque part.
Voilà, il faut faire des choix.
C'est peut-être ça. Hein. Ouais, c'est difficile là d'arriver à faire ces choix-là. Ou comment ? Est-ce qu'il y a certains types de choix que... Parce que effectivement, vous avez raison, l'éventail est très large et il ne fait que s'agrandir de par toutes les possibilités techniques. Mmh. Mais en même temps, effectivement, ça peut être aussi une... Cette liberté peut faire peur quelque part.
Oui, c'est un peu ce que je dis, c'est ça, en quelque sorte.
Il y a aussi le fait, alors, il y a peut-être deux aspects, il y a le fait que du coup, ça augmente peut-être le désir à la fois et les peurs de liberté, parce que du coup, on a les désirs de liberté, mais en même temps, que fais-je avec cette liberté, jusqu'où je vais, comment je manie ça, ou jusqu'où ça m'emmène, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, comment, quoi. Et donc du coup, ça impose aussi de faire des choix aussi à un moment donné.
Il faut savoir ce qu'on veut, en fait.
C'est ça.
Il faut comprendre ce qu'on aime et ce qu'on veut, et réaliser la musique qu'on voudrait entendre par là. Mais le truc, c'est que des fois, avec les médiums qu'on choisit, on n'arrive pas forcément à la musique qu'on avait entendue... dans notre tête. Et d'ailleurs, la démarche de Stéphane dans sa classe, c'est plutôt, enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt comme ça qu'il nous l'apprend, c'est-à-dire que c'est plutôt de jouer avec les sons, de voir ce qu'on peut en tirer, et ensuite la pièce découlera d'elle-même. Mais si on part tout de suite avec un plan
préconçu,
des a priori sur comment ça va sonner avec ça, etc., et ben en fait, en général, on est assez déçu, enfin le résultat se... Le résultat n'est pas à la hauteur, en fait, de ce que nous, on avait imaginé.
Donc, du coup, il y a aussi un peu de se débarrasser de, quelquefois, de certains préjugés esthétiques, préjugés autres.
Ouais. Bah, avec tout cet éventail de possibilités, c'est absolument nécessaire, en fait, parce qu'il y a des possibilités qu'on n'envisage même pas. Et puis, il y a tellement de musique qui a été produite que, il faut absolument débarrasser de conceptions... pas stylistique, mais en quelque sorte... en quelque sorte.
Des manières de faire qui sont peut-être un peu aujourd'hui les canons, si je peux dire, un peu de... Mais quand même de pouvoir... Ce qui fait que, finalement, quelles que soient les époques, d'ailleurs, vous parliez de Schaeffer tout à l'heure, mais on pourrait revenir à des compositeurs plus anciens, c'est vraiment la singularité, l'authenticité de ce que quelqu'un a à dire, finalement.
Oui.
Parce qu'effectivement, on peut tomber sur du bavardage, on peut sur des répétitifs de choses, mais qui, finalement, sont peut-être aussi vides de sens, mais qui jouent que sur l'aspect technologique.
Oui.
Mais sans forcément qu'il y ait du sens.
Oui.
Et c'est vrai qu'on peut être
toutes
complètement...
Les pièces,
tellement c'est immense.
Les pièces d'électroacoustique ne sont pas révolutionnaires, on va dire, dans leur conception, dans leur composition, etc. Donc c'est vrai qu'on peut vite s'y perdre aussi là-dedans.
Donc du coup, c'est intéressant aussi parce que ça vous demande, vous aussi, aujourd'hui, une grande exigence, finalement.
Ouais.
Exigence personnelle, de pensée, d'esprit, de lucidité aussi. De par rapport à là où vous êtes et de ce qui existe. C'est un sacré travail sur soi, donc finalement, de composer.
C'est vraiment un travail sur soi, surtout que, comme je disais tout à l'heure, avec les outils numériques maintenant, on peut être très vite, et puis avec la place que la musique a pris dans notre quotidien, on peut être très vite, je dirais peut-être laxiste en quelque sorte, sur notre manière de composer, parce que justement, tout est très très facile et du coup rien n'a vraiment d'importance puisqu'on peut recommencer des tas et des tas de fois et du coup notre attention peut vite se perdre sur ce qui est important et en fait je pense que c'est important de garder la même rigueur et la même exigence comme vous disiez que les compositeurs qui ont commencé avec leur magnétophone et leur bande à l'époque et qui eux étaient ultra exigeants avec ce qu'ils avaient quoi.
Et là, du coup, vous sentez qu'au fur et à mesure que vous vous lancez aussi dans certaines de vos pièces. Quand vous les imaginez, vous êtes dans l'état d'esprit ce que vous dépeignez à l'instant, Stéphane, vous disant, peut-être, tiens, c'est ce son-là qui vous intéresse. commencé à l'explorer, à trouver les contours, à vous immerger dedans, et il y a quelque chose qui va se dégager, ou à certains moments donnés, vous arrivez aussi, vous vous dites, ça c'est un endroit que j'aimerais creuser parce que pour telle raison, ou pour telle raison musicale ou autre.
Oui, les deux se produisent en fait, parce qu'à la base, moi je cherche vraiment à la base à être curieux du son, à l'écouter des centaines de fois pour vraiment... comprendre ce qu'il a d'intéressant ou pas d'ailleurs, mais comprendre son caractère, comprendre la personnalité du son, enfin de l'objet sonore comme on pourrait dire. Et puis une fois qu'on a commencé à créer quelque chose, qu'il y a peut-être une ambiance qui s'installe, en tout cas une page quoi, quelque chose, là ensuite on peut se poser la question de où est-ce que ça va en termes de temporalité effectivement au sein d'une pièce. Mais il y a ces deux manières de faire opposées. Enfin, opposées et complémentaires, en fait, finalement. Moi, je pense qu'elles sont complémentaires. Mais il faut se poser la question de qu'est-ce qui vient après et qu'est-ce qui fait que ça va valoriser ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qui fait que ça, ce qu'il y avait avant va valoriser ce qu'il y a après, etc.
Là, on évoquait des personnalités comme Schaeffer ou autres, on prend certains Parmigiani ou autres. Est-ce qu'en dehors de ces références-là, il y a d'autres musiques qui ont des influences pour vous, qui aussi vous nourrissent quelque part, parce qu'elles vous parlent aussi à certains endroits?
Ouais, en fait, moi je suis en études de jazz aussi à côté.
D'accord.
Donc je fais du chant de jazz. Ouais. Et c'est vrai que. C'est pas forcément les deux musiques qu'on mettrait tout de suite en rapport.
En rapport, effectivement.
Ça a été fait. Hein.
Oui.
De toute façon, dès qu'on parle de free jazz, on rentre dans une conception de la musique qui est assez, qui se rapproche de celle de l'objet sonore, du bruitisme. Du son pour le son. Voilà, les frontières
s'effacent. Oui, c'est ça, vous avez raison, du son pour le son.
Voilà. Et donc ça m'inspire aussi. Dans mes compositions, autant que l'électroacoustique m'influence aussi pour le jazz.
Oui, ça c'est intéressant aussi, ce non-cloisonnement, parce que quelquefois la musique électroacoustique souffre aussi finalement des catégorisations et de son propre isolement, parce qu'on peut en parler aussi un peu comme ça, même si vous êtes dans une classe électroacoustique, il y a cette difficulté de circulation, de faire aussi en sorte qu'elle intéresse un très large public, même si aujourd'hui, on l'évoquait avec Fanny Bouteiller tout à l'heure, toutes les musiques qui se font aujourd'hui, qu'on peut parler du rap, de toutes les formes, il y a des parentés et des passerelles énormes avec ce que vous travaillez ici au conservatoire dans une classe d'électroacoustique. Parce qu'il y a plein de manières de faire qui ont transpiré, et tant mieux d'ailleurs, et vice-versa.
L'une sur l'autre, effectivement. Et puis, je pense que... Encore une fois, avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, on peut tout faire merger, pas forcément avec le meilleur des goûts des fois, mais on peut tout mélanger, on peut tout mixer en fait. Là où il y a des limites à ça, c'est que je pense que les styles sont pas non plus le fait d'avoir des styles et des codes stylistiques, c'est pas non plus dénué de sens, et pour l'électroacoustique c'est pas non plus dénué de sens, mais comme l'électroacoustique arrive à la fin d'une ère où en même temps que le rock, etc., il y a une bascule qui fait que l'électroacoustique peut se réapproprier tout ce qu'elle veut. Enfin, j'ai l'impression que le monde de l'électroacoustique a l'impression qu'il peut, à juste titre, se réapproprier, englober un peu tout dans sa musique, dans son son en fait, dans ses moyens aussi de diffusion. Enfin, voilà. Et des fois, il peut y avoir quelques écueils à ça. Mais,
Bien sûr. Oui, comme on a pu avec la world music aussi à un moment donné, mélanger des...
Oui, voilà.
On sait qu'il y a ces dangers aussi qui sont là très forts et qui sont utilisés aussi par la massification. Qui est un des dangers aussi, effectivement.
Mais c'est toujours intéressant dans tous les cas, puisque on est aujourd'hui abreuvé de musique dans tous les sens, donc forcément ce qu'on va faire... n'est jamais
compte de tout ça.
Voilà, tient compte de tout ça, et c'est jamais le résultat, le produit de à part dans quelques exceptions je pense encore, mais c'est jamais le résultat d'une chaîne, de quelqu'un qui a étudié le classique à fond et qui fait que du classique, etc. Il est forcément influencé par autre chose.
Bien sûr, oui, on vit dans un monde où il y a une multiplicité d'influences et de rencontres justement, et on ne peut pas annihiler tout ce qui se passe autour de nous. Au contraire, on en est fait aussi. Après, chacun... Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure avec votre chemin artistique que vous avez envie de suivre, votre exigence, votre rigueur. où vous vous direz, bah, c'est à cet endroit-là, mais ça me nourrit, mais effectivement, mais ça m'emmène là.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais après, le jazz, comme je disais tout à l'heure, me nourrit dans l'électroacoustique, mais ouais. pas forcément stylistiquement, mais c'est plutôt dans l'approche de l'improvisation, c'est plutôt ça. Dans l'approche de...
Est-ce qu'il vous rapprocherait plutôt, il vous aiderait aussi à aller... parce que le travail de compositeur, c'est un travail aussi de solitude, aussi de se confronter à soi-même. Mm-hmm. Et peut-être que l'improvisation, c'est aussi une manière de... Alors, tout dépend bien sûr des improvisations, ce sera un débat, on n'a pas le temps d'aller dans ce débat-là, mais en tout cas, prenons-la dans le sens où, si on le prend sous cet angle-là, elle nous permet d'aller au plus juste de ce que nous sommes ici, là, maintenant. C'est-à-dire, pas forcément dans du bavardage, mais comment je peux être juste à ce temps-là, à ce moment présent, et pouvoir...
comment je suis et ce que j'ai à dire au moment présent, à c'est l'instant,
ça. Alors peut-être que ça, vous êtes dans ce travail de composition, peut-être.
Ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que il faut pas chercher non plus quand on fait l'électroacoustique et qu'on est étudiant en électroacoustique et que on passe des heures devant son Mac, devant ses enceintes, à se gratter la tête sur comment est-ce que je peux produire ça, qu'est-ce qui peut se passer ensuite. Il y a un moment où effectivement on se dit qu'on va faire avec ce qu'on a en fait tout simplement et qu'il faut pas chercher non plus. Parce que si les moyens qu'on a technologiques nous permettent de complexifier très très vite les musiques, et en fait des fois il faut juste revenir au plus simple, revenir à ce qu'on est et ce qu'on est capable de faire aussi, quoi. Ce qu'on entend, simplement.
C'est sur ces mots, voilà, ces beaux mots si je peux dire ainsi, qu'on va conclure notre entretien. Merci beaucoup Charlie en tout cas.
Merci à vous.
Et puis très bon concert pour ce soir. Alors, hein.
Merci beaucoup.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Résonance sur Radio B, émission spéciale avec les jeunes compositrices et compositeurs de la classe d'électroacoustique du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon. Et là, nous venons d'entendre une pièce de Charlie Medina intitulée « Mécarnogan », une drôle de machine qui nous emmène en voyage, cabossée, difforme et capricieuse. Elle nous promène à sa guise entre d'étranges mondes. En tout cas, bonjour Juan Manuel Sanchez, merci de nous accorder ces quelques instants avant le concert de tout à l'heure, puisque merci. Nous sommes ici au GMVL dans la Villa Gilet, et que vous participerez avec les autres élèves de la classe donc à ce concert. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la classe, ou je crois que même vous en êtes sorti de la classe?
Non, je suis encore
vous
dans
êtes
la
encore.
Classe, oui.
Peut-être fait... de remonter
oui, vers vous. Ça fait, c'est mon troisième année dans le conservatoire et bien. Dans la classe de Stéphane Borel. Avant, j'ai fait aussi la composition instrumentale. J'ai eu heureusement le DOM dans la classe de Christophe Modot.
D'accord.
Mais je continue avec la musique électroacoustique parce que je voulais, comment dire, élargir ma connaissance dans ce domaine.
Et qu'est-ce qui vous a intéressé justement à aller justement un peu plus vers ce domaine-là? Qu'est-ce qui fait que du coup vous vous êtes dit tiens, là il y a quelque chose qui m'intéresse à aller un peu plus loin?
Bon, d'abord, c'était ici en France, parce que moi, comme vous pouvez entendre, je suis pas français, je suis vénézuélien. Mais c'est vraiment ici que ce style de musique s'est développé. Et bon, je voulais essayer.
Oui.
D'investir du temps pour apprendre le métier de composition électroacoustique.
Oui.
C'est ça, vraiment. Et aussi d'apprendre à utiliser les machines, les appareils, savoir comment enregistrer les sons, faire une bonne prise de son. Voilà,
donc ça. Peut-être de rentrer un petit peu plus dans ce que peut-être le son lui-même, de le travailler, c'est
oui.
un peu ces côtés-là, quand vous évoquez le côté technique, mais
voilà.
Du coup de rentrer un petit peu plus physiquement parlant, techniquement parlant, à l'intérieur du son.
Oui, c'est exactement ça. Parce qu'en plus, la musique électroacoustique, ça elle a ce côté très intéressant.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'un son, n'importe quel son, on peut transformer ça dans d'autres choses qu'on même peut pas rêver. C'est pas comme par exemple la musique instrumentale que c'est vraiment où j'ai beaucoup plus étudié, mais la musique instrumentale, on a les sons de violon, on connaît les effets, mais quand même, c'est ça. On ne peut pas aller plus loin. Par contre, avec la musique électroacoustique, on peut faire tout.
Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas si ça sera le cas pour vous, mais qu'à un moment donné, vous ayant senti effectivement d'aller dans cette direction et d'aller le plus loin que vous allez pouvoir aller dans cette direction, que du coup, ça va modifier peut-être ou donner des envies de revenir à la musique instrumentale, mais que vous ne la verriez pas autrement. Vous la verriez sur un autre angle.
Oui, bien sûr. Ça, je pense que tout ce qu'on fait dans la vie, ça nous apporte, bon, dans l'art, dans la musique que je fais, ça m'apporte des choses pour m'améliorer ou pour changer la vision que j'avais avant de comment même comment m'approcher vers la création musicale. Mm. Ça m'a donné beaucoup plus m'approcher de la musique électroacoustique pour composer la musique instrumentale.
Qu'est-ce que ça signifie pour vous composer? Composer de la musique, qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Alors, composer, c'est vraiment... C'est parler dans un autre langage, avec un autre langage. C'est vraiment exprimer ça qu'on a dedans, qu'on veut dire, mais plus joliment,
Je dirais. Et donc, de pousser encore un peu plus loin ce ressenti intérieur, ce dedans.
Oui, voilà, c'est ça.
Et d'aller peut-être aller chercher peut-être dans des endroits qu'on ne soupçonnerait pas, peut-être.
Oui, oui. Oui, c'est vraiment ça. C'est exprimer ça qu'on a dedans. Et, oui, avec un peu plus d'expression, de sentiments, je dirais même aussi, qu'apporte la musique.
Et ça, au Venezuela, peut-être on peut venir aussi dans cette phase-là. Comment vous êtes entré en musique? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, la musique, ça me parle, ou je peux me retrouver dans ce que c'est que l'espace musical, l'espace sonore?
Bon, mon premier approche à la musique, c'était grâce à mon père, parce que lui, il était un grand... Bon, ma famille, on dirait... Je dis, je ne sais pas si en français c'est pareil, mais je suis le mouton noir de la famille. Je dirais ça parce que ma famille, c'est tous des avocats, des médecins. Et bon, quand j'ai dit à mon père que je voulais être un musicien, bon, il trouvait ça bizarre.
C'est bizarre.
Hein. Oui, c'est un peu bizarre. Mais quand même, il a toujours soutenu
envie.
Oui, mon envie de devenir musicien. Et lui, il était un mélomane.
Oui, tout à fait.
Mélomane. Et bon, c'est grâce à lui que...
Donc à la maison, vous entendiez beaucoup de choses aussi à la maison?
Beaucoup de musique. Beaucoup de
Et quel type de musique alors, par exemple?
C'était toujours de musique classique.
Musique classique. Donc, est-ce qu'il y a des compositeurs qui ont été plus marquants pour vous? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Beethoven? Est-ce que c'est Mahler? Est-ce que c'est...
D'abord, oui, toujours les plus classiques, c'est-à-dire Mozart. Après Beethoven. Mm-hmm. Et ainsi, on commence
Brahms,
à... Oui, voilà. D'accord. Petit à petit.
Donc vous étiez bercé aussi par l'écoute de ces musiques?
Toujours. C'est pour ça, et bon, finalement, mon rêve de devenir musicien, ça a été réalisé, finalement. Et parce que, bon, parce qu'en fait, j'ai une licence, j'ai même un master en musicologie latino-américaine.
Ah oui.
Mais c'était vraiment l'envie de recommencer à composer, parce que j'ai eu un petit trou, comment dire, pour réfléchir qu'est-ce que je voulais faire.
Qu'est-ce que vous vouliez vraiment faire.
Voilà. Mmh. Et bon, j'ai eu l'opportunité de venir en France. Mmh. Et j'ai essayé d'entrer dans la classe de Stéphane. Et bon, j'ai eu la chance.
De pouvoir être retenu et d'y participer.
Voilà. Et bon, du coup, je me retrouvais que je voulais continuer avec mes études de composition, et bon, je suis là.
Alors peut-être on peut dire quelques mots aussi sur l'œuvre que vous allez interpréter. On évoquait tout à l'heure avec Fanny Bouteillé que la musique électroacoustique s'interprète, que ça, elle se joue.
Oui.
Hein, ce qui sera le cas aussi pour vous tout à l'heure. Peut-être qu'est-ce qui a sous-tendu l'écriture de cette pièce qui sera donnée ce soir?
Alors, j'ai voulu écrire une pièce. Dans ce cas, ça s'appelle « Desde adentro ». Mm-hmm. Ça veut dire, si j'ai traduit, c'est « du dedans ». Mm-hmm. Et c'est une pièce qui parle du corps humain. Et j'ai ici deux aspects que je voulais travailler. C'était les corps humains dans son état physique, c'est-à-dire les sons qui produisent les corps humains.
Le corps lui-même.
Le corps lui-même, l'estomac. Essayer de reproduire aussi, par exemple, l'état quand on est face à un public et qu'on va jouer, on va interpréter une pièce et bon, on sent la nervosité.
Que là aussi, il y a la nervosité intérieure et voilà. Qu'il y a des sons aussi qui pourraient être là.
Oui, on entend les papillons, peut-être on dit comme ça en espagnol, les papillons qui sont dans le ventre, quand on est dans cet état. Et aussi, une deuxième partie qui part de la psyché, on dirait plutôt. Oui. C'est le cerveau qui prend la parole. On entend des éclats de l'électricité qui se promène dans la musique. Et bon, c'est plutôt ça
qui proche du corps humain et de dire finalement que la musique aussi, elle émane aussi finalement aussi de l'homme, de l'humain.
Du dedans.
Et du dedans. Exactement. Et que c'est de cet intérieur-là que du coup elle va naître, voilà. Et qu'elle va sortir et qu'elle va prendre forme.
C'est exactement ça. Voilà.
Et je crois que du coup on aura grand plaisir à la découvrir et que je sais qu'aussi que vous vous êtes aventuré aussi sur le côté mixte tout récemment, ou en tout cas à nouveau musique instrumentale, puisque vous avez écrit pour les percussions clavier de Lyon.
Oui, j'ai eu, grâce au conservatoire, grâce à Stéphane, l'opportunité d'écrire une pièce pour le groupe percussion clavier de Lyon. C'était une très belle expérience. En plus, les musiciens étaient très accueillants.
J'imagine, ils sont vraiment adorables.
Oui, voilà. C'était très sympathique. Et ils ont fait un très bon concert il y a 2 semaines.
Oui, c'est ça, c'est tout récent.
Oui, c'est tout récent. Et je crois qu'ils étaient contents aussi du résultat.
De cette expérience
et de cette expérience. Ouais. En plus, c'était une pièce que j'ai écrite.
Alors, pour quel effectif, alors, du coup ? Pièce sur clavier, j'imagine ?
Oui, c'est tout des claviers, des percussions. Ça serait 3 marimbas, 2 vibraphones et 2 glockenspiel.
D'accord.
Et en plus, c'était une pièce que j'ai écrite qui faisait allégorie à une légende latino-américaine. C'était un concert qu'ils ont fait en hommage au compositeur latino-américain.
Très bien.
Et bon, du coup, ça tombait très bien pour eux.
Bien sûr, oui, c'était la bonne occasion de vous rencontrer et d'avoir une création, voilà. Justement, qui rentrait dans le thème.
Et bon, toutes ces bien passées, vraiment, c'était très bon. Ils ont joué la pièce magnifique. D'une façon magnifique.
Voilà, donc il y a d'autres projets comme ça qui sont en cours pour vous ?
Oui, heureusement. Les mois prochains, j'ai eu un appel d'un clarinettiste qui est le principal de l'Orchestre national de Malaisie. Mmh. Il va jouer 2 pièces à moi que j'ai écrites pour clarinette et piano. Je viens d'avoir la nouvelle que Desde Adentro, cette pièce que je vais jouer aujourd'hui, va être interprétée dans le cadre d'un festival international à Reims.
Ah bah c'est super alors.
L'année mois d'avril.
Très bien.
Oui, il y a des bonnes nouvelles.
Vous sentez que, voilà, parce qu'effectivement, il y a le travail de composition ici, puis après de chercher à pouvoir diffuser sa musique et qu'elle soit justement, qu'elle aille à la rencontre d'un public plus large.
Voilà. Finalement, on compose notre musique et on veut bien sûr que les gens puissent l'entendre, l'écouter, l'apprécier. Et c'est ça qui maintenant se passe.
Merci beaucoup en tout cas pour ce moment et de nous avoir donné quelques clés aussi de lecture pour les auditeurs qui auront l'occasion aussi bien sûr d'entendre votre pièce. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci. Merci.
Résonance sur Radio B, émission spéciale avec les jeunes compositrices et compositeurs de la classe d'électroacoustique du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon. Et là, nous venons d'entendre Desde Adentro, pièce électroacoustique composée par Juan Manuel Sanchez. Desde Adentro, on peut le traduire aussi par du dedans. Une pièce qui nous parle du corps humain, comme nous l'a présenté lors de cet entretien Juan Manuel Sanchez. Résonance sur Radio B, émission spéciale avec les jeunes compositrices et compositeurs du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon. Donc un très grand merci à Rocío Cano Valigno, Charlie Medina et Juan Manuel Sanchez d'avoir bien voulu nous faire partager leurs réflexions, leurs recherches et leur musique. Un grand merci également à Stéphane Borel pour nous avoir permis la réalisation de ces entretiens. Cette émission de Résonance sera rediffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis dimanche de 20h à 21h. Vous pouvez bien sûr écouter, réécouter cette émission comme les précédentes en la podcastant, soit sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous. À très vite sur Radio B.